Comment cultiver la connexion à soi et la connexion aux autres? Nous avons vécu et nous continuons de vivre beaucoup de choses très difficiles et douloureuses ces derniers temps, et la plupart d'entre nous se sent pas mal déconnectés de soi et des autres.
Nous avons besoin d'un système pour nous reconnecter à nous-mêmes et les uns aux autres, pour créer ou recréer des relations profondes, authentiques et nourrissantes.
On est Aimé et Adrien de Je vais mieux. Et on est là pour vous aider à devenir la personne que vous avez envie d'être et à créer les relations dont vous rêvez dans votre vie. Que vous ayez des désirs, des attentes, des ambitions, que vous puissiez demander et créer, que vous vous sentiez nourri par vos relations.
Il nous est arrivé une petite histoire banale cette semaine et vous comprendrez après le lien. Notre voisine, Birgit, qui est une femme tout à fait adorable, nous a fait une sorte de crise émotionnelle, incontrôlée, pour un sujet qui au départ était tout à fait banal, c'est-à-dire qu'on partage un espace commun, une terrasse, et pour elle la propreté est extrêmement importante, et le fait que l'espace n'ait pas été suffisamment bien balayé et suffisamment rangé a pris des proportions difficiles. Parce que pour elle c'est très important, mais en fait elle n'a pas osé nous le dire. Et pendant des mois, elle a ruminé à l'intérieur d'elle-même sa colère et sa frustration. Et au lieu de venir nous voir pour nous en parler, cette tension s'est accumulée et du coup, au moment où on a enfin pu en parler, à ce moment-là, c'est comme si on avait ouvert les vannes d'un barrage. Tout à coup, toute l'émotion se déverse sur nous de manière incontrôlable. Nous, on est là, les yeux écarquillés, à regarder ce qui se passe, à dire « Mais de quoi elle parle? C'est quoi l'histoire ?» Mais en fait, toute cette tension qui était contenue à l'intérieur sort d'un coup et nous agresse. Nous agresse d'une manière totalement disproportionnée par rapport aux quelques feuilles qui traînent sur la terrasse.
Et paradoxalement, le pire, pour moi, quand j'ai vécu la scène et après coup, c'était même pas l'agression elle-même, même si bien sûr, elle n'a pas fait plaisir du tout. Ce qui n'a pas fait plaisir du tout, c'était toutes les phrases qui ont rajouté, je vous dis 1000 fois, et ça fait je sais pas combien de mois, et nanana, et tout le monde pense la même chose. Bon voilà, vous voyez les exagérations typiques et tout. Mais in fine, ce qui m'a vraiment dérangée, moi, et qui a fait que le lendemain matin, je me suis réveillée pas bien, c'était le fait qu'elle ne se rende pas compte et que du coup, elle ne prenne pas la responsabilité du fait que son émotion à ce moment-là a créé un comportement, du coup, agressif, insultant, etc. Et qu'en fait, ce comportement, il a des conséquences dans la réalité. C'est-à-dire que si nous, à ce moment-là, on n'est pas capable de prendre sur nous et de faire contenant à son émotion, donc de lui dire peut-être que c'était pas 1000 fois, de pas exagérer, de l'écouter, de lui dire oui d'accord, on comprend, dis-nous comment on peut faire, donne-nous des exemples précis, aide-nous, ok on te propose de ranger la terrasse ensemble pour qu'on puisse mettre d'accord. Si on n'est pas capable de faire tout ça, parce que on pourrait légitimement juste réagir à son agression, en fait la scène, elle aurait été bloquée, il n'y a rien qui se serait passé derrière. Peut-être même qu'on n'aurait plus pu se parler du tout, qu'on n'aurait plus pu partager la terrasse, qu'il y en aurait un des deux qui aurait été un perdant et l'autre qui n'aurait pas vraiment été gagnant mais qui aurait récupéré la terrasse entre guillemets. Et en fait, la relation aurait été détruite. Et ça, au moment où elle déverse toute son émotion et son agressivité sur nous, elle ne se rend pas compte qu'en fait, on n'agresse pas les gens comme ça. Que si tout un chacun se met à agresser son voisin dès lors que les feuilles ne sont pas suffisamment balayées, le monde ne va plus fonctionner et on va s'entretuer.
Il y a quelque chose d'assez fou dans cette scène, et malheureusement souvent très naturel, c'est que en fait, cette personne elle a mal. Elle ressent une douleur à l'intérieur d'elle-même et à ce moment-là, elle imagine ou elle identifie le fait que c'est à cause de nous qu'elle a mal. Donc elle voit que sa douleur vient de nous. Et du coup, à ce moment-là, vu qu'elle a identifié que la source de sa douleur était en face d'elle, bah du coup, elle va se mettre à attaquer la source de la douleur. Alors qu'en fait, cette émotion, elle est cristallisée à l'intérieur d'elle-même parce que ça fait des mois qu'elle n'ose pas ou qu'elle n'arrive pas à l'articuler, à en parler et à la partager avec nous. Mais du coup, il se passe une sorte de mécanisme automatique de « Vu que tu me fais mal, alors je vais t'agresser. » Et c'est de cette manière-là qu'une relation qui pourtant pouvait être tout à fait sympathique, agréable sous tous aspects, peut, en une fraction de seconde, prendre des proportions complètement déraisonnable et détruire la relation.
C'est ça. Y compris d'ailleurs des relations qui sont très importantes pour nous ou qu'on a de longue date. Et malheureusement, on voit ça très souvent dans les relations de couple, bien sûr, où en fait, ben, quand l'un fait quelque chose qui fait mal à l'autre ou qui l'insécurise ou qui appuie sur ses boutons, etc., malheureusement, l'autre peut avoir tendance à réagir en cherchant à faire mal aussi. Alors bien sûr, l'intention n'est pas conscientisée, n'empêche que le comportement qui correspond à cette émotion de « j'ai mal et je me défends », lui, il est très clair. Et quelque part, si je ne suis pas capable d'identifier mon émotion et mon comportement et ce que ça me fait faire ou ce que ça me fait dire, je vais créer des dégâts dans la réalité et en fait, j'en aurai même pas conscience. Et surtout, j'en aurai pas le choix. Je suis l'esclave de mon émotion à ce moment-là.
Il y a quelque chose de dramatique à cette scène parce que, en fait, plus je vais agresser l'autre, plus je vais accuser l'autre, plus je vais considérer qu'il est responsable de mon mal-être, plus je donne du pouvoir à l'autre, plus je donne du pouvoir à cette émotion qui me submerge et qui me contrôle. Et du coup, je deviens le prisonnier de cette scène et de cette émotion qui me fait souffrir.
Oui, donc, quand l'émotion n'est pas identifiée, en fait, c'est elle qui mène la scène. Et moi, je suis son pantin, sa chose, quelque part. C'est elle qui dirige mes actions, c'est elle qui choisit mes mots, c'est elle qui va définir mes comportements, c'est elle qui va définir comment je me comporte vis-à-vis de l'autre. En fait, c'est un hold-up émotionnel de tout le monde, moi en premier. Je suis devenue l'otage de ma propre émotion qui me dirige à ma place. Presque comme si quelqu'un avait un revolver sur ma tempe et me disait « décroche le téléphone, balance-lui le dossier à la figure, voire plante le couteau dans la jambe de l'autre, etc. » Et je le fais de la même façon que mon émotion me dit de tout d'un coup me mettre à faire mal à l'autre, de tout d'un coup me mettre à utiliser tel ou tel mot, de aller chercher dans les archives de notre histoire et de notre passé la micro-scène qui va correspondre à ce que j'ai dit, d'invoquer des personnes extérieures qui sont même pas dans la scène et qui peut-être ne diraient même pas ça, mais de les invoquer juste pour me faire du soutien. Et en fait, c'est mon émotion qui me guide et tire par des fils chacun de mes membres, chacun de mes mots, chacune de mes pensées et de mes comportements. C'est un hold-up.
Et on peut même penser que, justement, à ce moment-là, on ne pense pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien direct entre émotion, action. Il n'y a pas de pensée au milieu. On est sur un mécanisme automatique de réaction. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de réagir.
C'est ça.
On ne peut pas décider du comportement qui va avoir lieu. C'est la douleur et l'intensité de l'émotion qu'on est en train de vivre qui nous pousse vers une réaction spontanée à ce moment-là qu'on ne peut pas réfréner.
C'est ça.
Et c'est pour ça que ça peut prendre des ampleurs complètement disproportionnées parce que, en fait, le sujet à ce moment-là, il n'existe plus. On ne sait même plus si on parle des feuilles ou de quoi. En fait, c'est juste la douleur qui est à l'intérieur de nous, qui parle de manière automatique et qui déclenche un comportement qu'on ne peut pas empêcher.
C'est exactement à cet endroit de non-pensée, de non-conscience et du coup de non-liberté qu'arrive la responsabilité émotionnelle.
Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilité émotionnelle ?
En fait, quelque part, c'est que sur le moment, dans l'idéal de l'idéal, mais au minimum après coup, je conscientise que je suis aux prises d'une émotion, je reconnais les comportements que ça me fait avoir, y compris les comportements pas faciles à reconnaître, c'est-à-dire l'agression, la mauvaise foi, l'exagération, l'attaque ad hominem aussi. C'est parce que tu es comme ça, ou c'est parce que, oui mais toi, tu, etc., etc., qui sont des attaques ad hominem. Donc, reconnaître tous ces comportements-là, qui ont découlé de l'émotion qui m'a prise en otage, et demander pardon.
Parce que justement, dans ces moments d'intensité émotionnelle, comme tu disais, on a tendance à attaquer la personne plutôt que la scène.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire « Ah, c'est dommage que tu n'aies pas balayé la terrasse. » Mais en fait, ça glisse vers autre chose. Ça glisse vers « Mais quand même, c'est normal Tu aurais dû le faire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es une mauvaise personne.
C'est ça.
Donc en fait, on passe d'un comportement de culpabilité à un comportement de honte. Et là, forcément, ça déclenche à l'intérieur de nous-mêmes, en face, de la douleur aussi, parce qu'on est en train de nous dire que qui on est et comment on est, c'est pas bien. Et à ce moment-là, si la personne qui se fait attaquer n'a pas la possibilité, elle aussi, de se rendre compte de l'émotion qu'elle est en train de vivre, c'est le carnage.
Exactement. Alors que, autre scène qu'on a vécue récemment avec mon oncle, petite discussion banale qui est partie au fiasco total parce que un truc de ce dont on a parlé a touché un de ses boutons et un sujet qui est très sensible pour lui. Il a surréagi, il est parti en vrille totale en nous disant non mais vous faites partie de ces gens qui, nanana, etc. Et en fait, il s'en est rendu compte en temps réel, dans le même dîner. Et à la fin du dîner, il a dit, ok, en fait, là, je vois que je me suis fait happer par une partie de ce que tu as dit, que j'ai sciemment pris que cette partie et laissé tout le reste à côté, parce que ça a touché mon émotion et que du coup, je t'ai attaqué là-dessus, que je n'ai rien écouté d'autre de ce que tu as dit, et en fait, je te demande pardon. Parce que ce que j'ai fait, c'était de la mauvaise foi, parce que ce que j'ai fait, ça bloquait la relation, et parce que au moment où toi, t'étais en train d'essayer de venir vers moi pour créer une relation avec moi, moi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai renvoyé dans les roses manu militari, et que c'est pas acceptable. Et en fait, au moment où il demande pardon, et on en a encore reparlé le lendemain, non seulement la relation s'est recréée alors qu'elle aurait pu être endommagé sans retour, hein, qu'on aurait pu ne plus jamais pouvoir discuter avec lui et que toi tu puisses plus être en relation avec lui. Mais au lieu de ça, non seulement la relation a été réparée, mais même elle a été renforcée.
Oui. Eh oui, parce que bien sûr, la confiance, elle se construit pas dans les moments où tout va bien et où tout est rose et où tout le
Toujours.
monde est d'accord. Non, la confiance, elle se construit quand on peut vérifier comment l'autre se comporte, précisément quand on se fait mal.
Exactement. Exactement. Et c'est là qu'en fait, quelque part, la responsabilité émotionnelle, c'est arrêter le hold-up en cours de route, relâcher les otages, négocier avec le bandit à l'intérieur de nous qui a pris tout le monde en otage, et mettre tout le monde en sécurité. C'est-à-dire, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe là? Là, il se passe quelque chose qui est complètement disproportionné, qui est en train d'aller dans une violence ou une agressivité qui ne nous va pas. Il y a un bandit dans la scène qui est en train de prendre tout le monde en otage. Faut qu'on libère les gens. Faut qu'on libère la relation de ce hold-up-là et qu'on se mette en sécurité. Et ça, c'est par cette responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire l'identification de l'émotion, l'identification et la reconnaissance des comportements et de ce qu'ils produisent, et le fait de demander pardon.
Et là, il y a quelque chose de magique qui s'opère parce que, à partir du moment où on développe et où on entraîne cette capacité à ressentir, parce que finalement, pouvoir réassumer la responsabilité de notre émotion, ça commence par l'identifier. Mais l'identifier, ça ne sera pas avec la tête. Ça sera avec la capacité à sentir physiquement, physiologiquement dans notre corps quels sont les symptômes, qu'est-ce qui se passe. J'ai les mains qui tremblent, j'ai tout à coup le regard qui se perturbe, je vois comme si j'étais dans un tunnel, ou tout à coup j'ai le cœur qui palpite, ou tout à coup j'ai le torse qui se serre, ou j'ai les jambes qui gigotent, ou je me mets à avoir froid, ou je me mets à avoir chaud,
Je sens que je crie,
ou je
je
sens que
sens
je
que...
crie, ou je monte en intensité, ou je me crispe, ou je deviens tout rouge. D'apprendre à ressentir tous ces marqueurs qui s'expriment, globalement, ils s'expriment assez universellement de la même manière pour tout
Oui.
le monde, hein. Mais chacun à notre manière, à développer cette capacité de finesse de ressenti pour pouvoir identifier ça. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose de magique. Parce qu'à partir du moment où je demande pardon, à partir du moment où j'assume la responsabilité de mon émotion, instantanément, le lien se recrée avec l'autre. Instantanément, la pression, elle tombe. L'intensité de la scène, elle tombe, et
C'est
tout
ça.
à coup, on se retrouve à pouvoir être en lien
C'est
et à
ça.
pouvoir l'être l'un avec l'autre. Et ça fait un bien. Et c'est incroyable comment c'est libérateur et comment ça soulage.
Et finalement, à ce titre-là, la responsabilité émotionnelle, c'est la solution universelle pour débloquer n'importe quel conflit et pour éviter l'escalade de violence. Parce que, encore une fois, notre voisine, au moment où elle nous agresse, elle a entre guillemets de la chance que moi, je l'agresse pas en retour. Alors moi aussi j'ai cette chance-là, parce que si moi je l'agresse en retour, c'est fini. C'est fini. Elle, elle va m'agresser encore, ça va monter en escalade, on ne pourra plus se parler. Il y en a peut-être une des deux même qui va déménager, mais il y a quelque chose qui va être complètement bloqué. Donc à ce moment-là, pouvoir prendre la responsabilité émotionnelle, moi sentir ce que ça me fait, arriver à identifier, conscientiser et choisir le comportement que je veux avoir dans cette scène-là, c'est ça qui débloque le conflit.
Parce qu'en fait, on croit que voir la part de l'autre va nous soulager de notre douleur. C'est-à-dire que vu qu'on est en train de se faire agresser, on se dit, mais attendez, c'est légitime. La personne là, elle est en train de me faire du mal, donc il faut que je dénonce ce qu'elle est en train de faire, parce que moi, je suis une victime. Ça, d'un point de vue de la justice, si on mettait une caméra à l'extérieur et qu'on regardait la scène, on pourrait penser comme ça. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que ça, continuer à regarder la part de l'autre et à augmenter sa part de responsabilité, peut-être que d'un point de vue de la justice, c'est potentiellement vrai ou pas. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que d'un point de vue émotionnel, ça ne me fait pas du bien. Ça ne me libère pas. Et c'est ça qui... Il y a quelque chose de contre-intuitif, parce que plus je continue à regarder la part de l'autre, plus je donne à l'autre et à la scène de la puissance sur moi. Plus je continue à être une victime, plus je continue à être impuissant. Alors que si je vois ma part, si je me donne le choix dans mon comportement, du coup, dans ma manière de réagir, je me redonne de la liberté et je retrouve mon propre pouvoir dans cette scène. Et ça me fait vraiment du bien.
C'est ça. Finalement, la responsabilité émotionnelle, en nous permettant d'identifier ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, elle nous redonne du choix. Et le choix, c'est ça la liberté, c'est ça le pouvoir. C'est-à-dire que je ne suis pas tout puissant. Bien sûr, je n'ai pas toujours le choix de ce qui m'arrive, j'ai pas toujours le choix de qui sont mes voisins ou qui sont mes beaux-parents ou même mes parents tout court. J'ai pas le choix de ce qui va m'arriver un jour quand je vais être dans la rue peut-être et me faire agresser ou de ce que je vais subir. J'ai pas le choix de ce qui se passe dans le monde. J'ai pas le choix d'un accident de voiture qui pourrait me donner des handicaps ou je sais pas. Bien sûr que j'ai pas toujours le choix de ce qui m'arrive. Par contre, quelque part, je peux me donner le choix de comment je réagis à ça? Alors je sais que ça fait trop joli à dire comme ça, que c'est loin, 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 loin d'être aussi simple. Et ce qu'on est en train de dire, c'est certainement pas que puisque c'est possible de se donner le choix, il suffit de, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est important de savoir que ce choix-là, il existe. Et quelque part, Desmond Tutu, qui a écrit le livre du pardon, raconte ça dans son livre, c'est presque le fil conducteur où il raconte tellement d'histoires de gens dont la vie a été complètement mise sans dessus dessous et complètement bouleversée dans des niveaux dramatiques parfois qu'on a du mal à imaginer, que ce soit un Palestinien dont l'enfant a été tué à la bande de Gaza, qui est devenu très 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 en colère et est devenu un terroriste contre les Israéliens, mais jusqu'à un moment où en fait il a été emprisonné et ce passage en prison l'a fait changer de position et derrière il était dans de la compassion et de la fraternité avec les Juifs et les Israéliens autour de lui et quand un enfant juif s'est fait tuer, il se réjouissait pas et au contraire il pleurait en disant je pleure comme si c'était ma propre fille. Ou un couple qui a perdu ses deux filles dans un accident de voiture à cause de quelqu'un, à cause d'une femme qui conduisait en état d'ébriété. Et en fait, ce couple, après quelques années, est allé voir la femme en prison et les trois ont fait des tournées dans leur pays de partout pour raconter leur histoire et pour donner un message d'espoir sur qu'est-ce que ça peut être que le pardon, sur aussi qu'est-ce que c'est que l'addiction, qu'est-ce que c'est que la souffrance qui est associée, etc., etc. Mais ils avaient le choix quelque part de haïr cette femme toute leur vie qui avait tué leurs deux filles. Ils en avaient des raisons légitimes. Mais ils se sont donnés un autre choix et une autre liberté et un autre pouvoir en voyant que l'émotion de tristesse, d'injustice, de rage, de colère qu'ils ressentaient allait les rendre prisonniers de ça, ad vitam aeternam. Et c'est pas ça qu'ils voulaient vivre.
Et c'est en ça que le pardon est le chemin le plus direct vers la libération. Et ce qu'on entend par libération à ce moment-là, c'est que, comme tu le disais, si mes deux enfants sont morts dans un accident de voiture et que je haïs la personne qui est responsable de ça, bien sûr que je suis en droit de la haïr, vu la scène, vu ce qui s'est passé. Mais si je la haïs, je continue moi à vivre l'émotion de la haine et je deviens l'esclave de cette émotion. Donc en fait, je deviens mon propre geôlier. Je suis ma propre prison. L'entretien de cette émotion-là à l'intérieur de moi, comme une forme de rumination, me maintient dans un état de souffrance éternelle. Alors que si au contraire, je réussis à l'intérieur de moi à pardonner, je retrouve ma liberté parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je reprends mon pouvoir.
C'est ça.
Je reprends mon pouvoir de pouvoir diriger mon attention où je veux. Et j'arrête d'être le pantin de cette émotion qui me terrorise.
C'est ça. Et ce pouvoir-là, il prend ses racines dans mes valeurs, en fait. Dans ce que je veux incarner, dans ce que je veux mettre dans ce monde. Et quelque part, si je mets dans ce monde de l'agressivité, de la violence et de l'accusation, il va y avoir dans ce monde de l'agressivité, de la violence et de l'accusation. Si je mets dans ce monde du pardon, de la compassion et de la solidarité, il y aura dans ce monde du pardon, de la compassion et de la solidarité. Et c'est ça qui m'avait rendu tellement en colère après cette scène avec notre voisine. C'est comment est-ce qu'elle peut croire et s'autoriser à mettre autant d'agressivité dans la scène, dans le monde, dans notre relation, dans le grand tout, et croire que ça n'aura pas de conséquences. Que après tout, bah elle le ressent, donc allez, je le fais sortir, et puis point. Alors que si on réfléchit à qu'est-ce qu'on se souhaite les uns les autres, qu'est-ce qu'on veut vivre, nous déjà, nous-mêmes, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut vivre dans la relation avec les gens autour de nous, et globalement, qu'est-ce qu'on souhaite à ce monde, ça donne une direction philosophique générale à qu'est-ce que je veux incarner. Et mon pouvoir qui est toujours, toujours à moi, il va prendre ses racines à cet endroit-là.
Et là, d'un côté, le fait de maintenir cette spirale de violence, cette spirale d'agression qui fait que parce que j'ai mal, je te fais mal, parce que tu as mal, tu me fais mal, parce que tu... et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Mm. Alors que tout à coup, il suffit qu'il y ait une personne qui ait la volonté, qui ait le courage et qui ait l'envie de faire un autre choix. Mm. Et justement de ne pas répondre à l'agression par l'agression, à la violence par la violence, à l'émotion par l'émotion, mais de voir que justement en réassumant sa part de responsabilité dans l'émotion, ce cycle il peut s'arrêter. Ce cycle il peut s'arrêter, on peut reconstruire des ponts entre nous, on peut recréer des liens même en ayant eu mal. Et précisément, comme on le disait tout à l'heure, des fois c'est même après s'être fait vraiment mal qu'on crée les liens les plus forts. Donc tout à coup, les situations qui créent des émotions douloureuses peuvent devenir des opportunités pour reconstruire des relations encore plus puissantes, encore plus profondes, encore plus sincères et encore plus nourrissantes.
Alors, on vous avait promis qu'on ferait le lien avec la question du début. Et en fait, ce sujet-là, nous, il nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Je pense que vous pouvez l'entendre. En partie parce que voir ma part de responsabilité, mes émotions, voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour moi, en fait, c'est une façon extrêmement puissante de me connecter à moi-même, d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ne pas être ignorant de moi-même dans la scène, mais au contraire d'être profondément enraciné, bien bien planté dans mes talons, mes mollets, mon bassin, mon ventre, mes épaules, et bien 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 savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et dans ce moment-là, je suis profondément connectée à moi, profondément vivante. Je suis aussi profondément connectée à mes valeurs, à mon cœur, à ce que je veux incarner. J'ai ce double regard qui me donne cette liberté. Donc, je suis dans mon humanité aussi, dans cette liberté qui est propre à l'humain, de pouvoir imaginer autre chose, de pouvoir agir autrement que par son pur instinct. Donc, j'ai ce choix, ce libre arbitre incroyable. Et du coup, au moment où je suis profondément enracinée et alignée à l'intérieur de moi, je peux aussi être beaucoup plus profondément connectée à l'autre, connectée aux émotions que l'autre vit. Parce que si je suis plus otage de ma propre émotion, du coup, je peux voir, en tout cas essayer d'imaginer ce que l'autre est en train de vivre et presque avoir de la compassion pour ça, ou arriver à me dire « Ah oui, d'accord, je vois où est-ce que c'est venu le choper, je vois où est-ce que c'est venu le blesser. » Et si j'ai des mots pour nommer mes émotions, j'ai beaucoup plus de mots pour nommer les émotions de l'autre, pour le reconnaître, pour le voir. Donc, cette notion de responsabilité émotionnelle que, malheureusement, on a trop tendance à voir comme étant, oui, quelque chose de l'ordre du devoir, de, oui, bon, bah, ça, je le ferai un jour où je serai un grand sage bouddhiste, mais en attendant, hein, dans mon quotidien, c'est pas si simple que ça. Mais en fait, c'est un outil magique pour se connecter à soi et pour se connecter aux autres.
Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ma femme, elle est juste géniale. Elle est juste géniale. Et cette intelligence amoureuse me rend encore plus amoureux de toi, mon amour. Alors, on vous souhaite de vous sentir connecté avec vous-même et de vous sentir connecté aux autres. Parce qu'en fait, plus on aura la possibilité d'approfondir notre capacité à nous connecter à nous-mêmes et à nous connecter à nos émotions, plus on aura la capacité de nous connecter aux autres et à leurs émotions. Et par principe d'empathie, par phénomène de résonance, ça va rendre nos relations plus saines, plus profondes, oui, plus nourrissantes, plus solides. Ça va nous donner plus de confiance. La relation va devenir plus authentique. Et Tony Robbins disait il n'y a pas si longtemps que, en fait, la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos relations.
Et de nos émotions, d'ailleurs.
Et du coup, la qualité de nos relations dépend de la qualité de nos émotions.
Oui.
Il y a un lien direct.
C'est ça. Et dès le départ, quand on essayait de formuler le pourquoi, la mission, le pourquoi est-ce que je vais mieux était important pour nous, de qu'est-ce qu'on a envie d'incarner dans ce monde à travers je vais mieux, justement, dès le départ, ce qui est venu, c'est on se souhaite, on vous souhaite, on nous souhaite, à nous autres êtres humains, d'expérimenter plus de bienfaisance, de bienveillance, d'amour, de tendresse dans nos relations, de choses qui nous tirent vers le haut, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la joie, d'expérimenter moins de cette violence anodine du quotidien. Bien sûr, on n'éradiquera jamais la violence complètement et l'être humain restera l'être humain. On n'est pas dans le monde des bisounours et c'est pas ça qu'on vous propose ou auquel on rêve, mais on nous souhaite à nous tous d'être capables de choisir des comportements non violents et de prendre la responsabilité de nos émotions, parce que plus on va faire ça individuellement, plus c'est ça qu'on va vivre collectivement et sociétalement et à l'échelle de l'humanité. Plus chacun va pouvoir le vivre dans ses relations intime et proche, plus en fait ça veut dire que l'histoire de l'humanité ce sera ça. Et ce qui est génial, c'est que souvent on a l'impression de nos jours avec ce qu'on nous dit dans les médias, etc. Bon, quand on regarde les campagnes présidentielles de nos candidats, etc., on peut vite arriver à la conclusion que le monde va de plus en plus mal, qu'il y a de plus en plus de violence, qu'il y a de plus en plus de coupures, etc., etc. Mais si on regarde à une perspective un peu plus grande, et quasiment tous les philosophes sont d'accord avec ça, philosophes ou grands maîtres sages ou peu importe, globalement, en fait, ça va dans le bon sens. Tout l'intérêt qu'on donne aujourd'hui au développement de soi et des relations, à la thérapie pour penser nos blessures, à l'éducation positive pour nos enfants, toute la non-acceptation de nos jours des violences sociétales, de racisme, de domination masculine, homophobie, etc. Toute cette non-acceptation de cette violence-là et tout ce souhait qu'on a les uns envers les autres de pouvoir être plus bienveillant, la communication non violente, tout ça montre que, en fait, aujourd'hui, on a soif de ça. On a envie d'aller vers ça. Et que, parce que on a réglé beaucoup de problèmes de survie et de sécurité à plein de niveaux, on a aujourd'hui la possibilité, la disponibilité intérieure de se poser ces questions-là, de se poser la question de la qualité de nos émotions, de se poser la question de l'intelligence émotionnelle, de se poser la question de la sensibilité des animaux, de se poser la question de comment on donne à un enfant tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir, avoir confiance en lui, avoir confiance dans le monde, avoir envie d'aller explorer, etc., etc. Et toutes ces questions-là, si on se les pose, c'est bien parce que on en a soif, c'est bien parce qu'on en a envie de tout ça. On a envie de encore mieux, encore plus profondément prendre en compte ce qui nous rend profondément humains, ce qui fait de nous des êtres humains, ce qu'on appelle l'humanité à l'intérieur de nous.
Et peut-être qu'une des définitions les plus directes de l'humanité, justement, c'est notre vécu émotionnel. Nous sommes des êtres émotionnels. Avant d'être des êtres intellectuels, avant d'être des êtres pensants, nous ressentons. Et plus on aura la possibilité de prendre soin de nos émotions, de les chérir, de les conscientiser, de les ressentir et de les partager, plus on sera en lien et plus la qualité de notre connexion sera profonde.
C'est ce que dit Brené Brown, qui est une de nos sources d'inspiration intemporelle et illimitée, et qu'on vous souhaite dans votre vie parce que c'est juste un cadeau. Et elle dit ça, elle dit on croit que on est des machines à penser qui de temps en temps vivent des émotions, alors qu'en fait non. La science, la neurobiologie, etc., etc., ont tous prouvé que en fait on est des machines émotionnelles qui de temps en temps arrivent à penser.
Qui arrive à penser à travers le filtre des émotions. C'est-à-dire que
À
l'émotion
travers le
s'exprimera
filtre des émotions.
toujours avant la pensée.
Oui.
Donc en fait, la qualité de notre pensée est
Oui.
toujours teintée de notre vécu émotionnel d'abord.
Et en même temps, récemment, j'étais en train de lire un magazine sur justement l'humain, l'évolution et depuis le début de l'humanité. Et ce que disaient les scientifiques de plein de façons différentes, c'est que ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité à imaginer. C'est sa capacité à voir ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas encore tangible, ce qui pourrait être, et à choisir ça. Et quelque part, pour moi, cette responsabilité émotionnelle, elle est aussi, en fait, dans imaginer ce qui est en train de se passer pour l'autre, imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi, imaginer comment la scène va se dérouler si je choisis tel comportement ou si au contraire je choisis tel autre, arriver à voir ce qui est de l'ordre de la réalité, ce qui est, et ce qui pourrait être, et pouvoir choisir ce qui pourrait être. C'est ça qui nous a fait domestiquer le feu, c'est ça qui nous a fait créer l'électricité, c'est ça qui nous a fait fonder notre médecine, c'est ça qui nous a fait inventer ce monde. C'est voir ce qui pourrait être si on adoptait tel et tel comportement, et si on lâchait pas jusqu'à y arriver.
Parce qu'on ne pourra pas empêcher les émotions. On ne pourra pas
Non.
gérer les émotions non plus. On
Non.
entend souvent le « oui, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions ». Non, les émotions, elles sont là, elles sont pas, elles vont pas partir. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à les vivre pleinement, à les reconnaître, à les ressentir, à les identifier, justement pour ne plus en être l'esclave.
Et à choisir les comportements et ce qu'on veut incarner. On vous laisse avec ça. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve bientôt.
À très bientôt, bonne journée à vous.